Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce mot que vous risquez de beaucoup entendre dans les jours et les semaines qui viennent.
Couvre-feu. La mesure pourrait être annoncée ce soir par Emmanuel Macron pour les zones les plus touchées par le virus. Dans l'actualité également, un policier de la BAC grièvement blessé cette nuit en Essonne. Il a été percuté par le conducteur d'une voiture volée. Et puis les Bleus jouent en Croatie ce soir dans un stade à la jauge plus généreuse. 7000 supporters et ça change tout, nous dira Robert Pires, notre consultant.
RTL Matin.
Après le confinement, le couvre-feu. L'année 2020 ne nous aura décidément rien épargné. Le couvre-feu pour tenter de ralentir la propagation du virus, c'est l'option qui pourrait être retenue ce soir par Emmanuel Macron qui prendra la parole. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Plus de questions que de réponses évidemment pour le moment. D'abord sur l'heure. Quand est-ce qu'on décide de fermer ? 20h, 22h ou 17h ? Ce n'est pas la même chose et les effets ne sont pas les mêmes.
Oui, on va prendre plusieurs exemples. Si le couvre-feu n'a lieu que la nuit, par exemple de 23h à 5h du matin, alors en semaine, les effets seront moindres sur l'économie. Ça permettra surtout d'éviter les interactions sociales, les dîners, les retrouvailles pour boire un verre, ce qui fait circuler le virus, notamment chez les jeunes. Si le couvre-feu est activé plus tôt, à partir de 20h par exemple, alors les entreprises vont devoir se réorganiser pour laisser partir leurs employés plus tôt. À Paris, par exemple, tous les jours à 20h, il y a une centaine de kilomètres de bouchons sur les routes. Enfin, on sait que plus le couvre-feu commence tôt, plus il est efficace. Il suffit de regarder comment ça s'est passé cet été en Guyane. Au mois de juillet, il y avait un couvre-feu de 17h à 5h du matin et c'est malheureusement quand il était aussi drastique que les autorités de santé avaient vu une vraie baisse de la circulation du virus.
Alors, Agathe, quand on parle de couvre-feu, c'est tout qui ferme, hein, pas que les bars et les restaurants.
Oui, du coup, ça impacterait notamment le monde de la culture, déjà très impacté par la crise. Les cinémas, les concerts, les théâtres, les bars resteraient évidemment fermés, comme les boîtes de nuit. Et pour les restos, ils ne pourraient assurer que leur premier service.
Ça va être le retour des attestations ?
Oui, pour certains métiers, les soignants, les policiers, les gendarmes, les chauffeurs de taxi et les travailleurs de nuit en général. Mais ces attestations ne concerneront pas tout le monde. Ça ne sera pas comme pendant le confinement, où vous pouviez quand même sortir un peu, vous balader, faire du sport ou faire vos courses.
Merci beaucoup Agathe Landais. Pour les professionnels de la restauration, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Guillaume est restaurateur à Marseille, il était dans les petits matins de RTL.
Oui, on est inquiet bien sûr, on a fermé une semaine mais cette fermeture d'une semaine nous a coûté en fait 15 jours parce qu'il a fallu récupérer nos clients derrière, ça a été super compliqué. On commence à retrouver un semblant d'activité maintenant là. Qu'est-ce qui va nous tomber encore sur le dos, on n'en sait rien en fait. C'est-à-dire un couvre-feu, bon bah, s'il faut le faire, on le fera. On s'appliquera une nouvelle fois à des nouvelles mesures, mais je pense que forcément, de fermer à 22h, ce serait pour nous une catastrophe. Ce qui est dramatique, c'est qu'on ne sait vraiment pas où on va, quoi. Et c'est vrai que nous, en projection dans le temps, c'est très compliqué pour nous.
Guillaume, restaurateur à Marseille, ce matin avec Julien Cellier sur RTL. Pour les petites et très petites entreprises qui n'ont pas pu décrocher un prêt garanti par l'État, Bercy lance aujourd'hui un nouveau dispositif de prêts exceptionnels qui seront versés directement par l'État et non plus par les banques, jusqu'à 50 000 euros.
La crise économique touche les professionnels et ceux qui ne travaillent pas encore.
C'est une année noire pour les étudiants. Ceux qui sont arrivés sur le marché du travail ont du mal à décrocher un emploi et les autres, ceux qui sont toujours à la fac, peinent à trouver des stages et des petits boulots. À Marseille, cette association qui vient en aide aux étudiants en difficulté, vendredi 13, a vu le nombre de ses bénéficiaires multiplié par 4 depuis la fin du confinement. Hugo Hamelin.
Là, il y a des pois chiches, des petits pois.
C'est un mini supermarché qui tient sur un seul rayon, installé sous un abribus de la faculté. Adrien et Katia remplissent leur sac de courses.
Des fruits, des légumes, voilà, du pain, du lait.
Ben moi, par exemple, j'étais en école d'ingénieur et j'avais un stage qui était programmé pendant 3-4 mois, qui allait me faire des revenus conséquents. Et du coup, ce stage a été annulé, j'ai perdu les revenus. Et du coup, ben, ça a été très compliqué pour moi. Et ça, c'est le cas pour plein d'étudiants.
Ben oui, ça a un impact sur la vie économique. Moi-même, je suis étudiante étrangère. Du coup, j'ai pas mes parents ici, j'ai pas de famille. Ça a été compliqué pour qu'ils m'envoient de l'argent de là où ils sont, quoi. Du coup, ben oui, ça nous aide beaucoup, ces courses. Ben, ça tient quelques jours, quoi.
Là, on a des petites salades.
Lisa, l'une des membres de l'association Vendredi 13.
Depuis l'année dernière, moi, je le fais. On servait 20 étudiants, je crois, par semaine. Et là, il y en a aujourd'hui, il y en a 100, 120 à peu près.
Il y a de plus en plus de besoins, ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Et plusieurs étudiants m'ont dit aussi qu'ils avaient perdu leur petit boulot dans un bar, dans un restaurant, lorsque ceux-ci ont dû fermer fin septembre.
Reportage d'Hugo Hamelin à la fac de Lumini à Marseille. Et puis, on en apprend plus chaque jour sur ce virus. Ce matin, notamment avec cette étude britannique, on savait qu'il pouvait entraîner une perte du goût et de l'odorat. On apprend aussi qu'il peut rendre sourd et de manière permanente. Un premier cas avait été signalé en Thaïlande en avril dernier. L'étude de ce matin cite un patient britannique de 45 ans hospitalisé pour Covid et qui souffrait d'asthme.
Si vous avez un SUV, laissez-le au garage aujourd'hui. Hein. Mystérieux collectif appelle à crever les pneus de ces grosses voitures. Message à l'appui.
Ces véhicules sont loin d'être accessibles à tout un chacun et sont de plus en plus utilisés par des citadins pour exhiber leur richesse.
A tout de suite pour savoir le tenant et l'aboutissant de tout cela.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin sur RTL. Alors, quel est ce mystérieux collectif qui appelle à crever les pneus des SUV ?
Il se fait appeler la Ronce et il promet de passer à l'action aujourd'hui. Il semble suffisamment sérieux, en tout cas pour inquiéter l'association 40 millions d'automobilistes. Vous avez enquêté, Aude Vernuccio. Premier constat, on n'a pas affaire à des grands bavards.
Pas d'interview par téléphone et pas de rencontre. La Ronce ne répond que par écrit ou grâce à une voix robotisée.
Nous n'avons pas peur de nous attirer les foudres de ces grandes multinationales pollueuses.
Pas de bureau ni de chiffres sur le nombre de membres à la manière des Anonymous, mais la méthode est plus concrète. Déboucher une bouteille de soda dans un supermarché pour la rendre invendable, saboter les trottinettes électriques à coups de colle forte ou encore dégonfler les pneus des SUV.
Ces véhicules sont loin d'être accessibles à tout un chacun et sont de plus en plus utilisés par des citadins pour exhiber leur richesse, à tel point qu'ils sont le deuxième facteur d'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010.
Alors impossible de savoir si l'appel sera suivi en masse. Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes se dit très inquiet.
Certains automobilistes vont retrouver leur véhicule avec les pneus à plat. Ces quelques minutes de perdu peuvent avoir des conséquences pour aller chercher les enfants à l'école. Si, dans un besoin extrême, quelqu'un a besoin de se rendre à l'hôpital, que va-t-on faire ?
Les militants écologistes promettent de prévenir le propriétaire avec un mot sur le pare-brise. L'association d'automobilistes, elle, dénonce un appel au vandalisme. Elle demande aux propriétaires de SUV de se signaler pour ensuite porter l'affaire en justice.
Aude Vernuccio. On le disait dans les titres, une patrouille de la BAC a dégénéré cette nuit à Savigny-sur-Orge, en Essonne. Le conducteur d'une voiture volée a percuté un policier dont le pronostic vital est ce matin engagé. Il a une quarantaine d'années, il est père de famille. Thomas Proutot vient de joindre Claude Carillo, il est secrétaire régional Alliance Essonne.
Vers 2h du matin, un équipage de policiers de la BAC, agglomération Juvisy, a voulu contrôler un véhicule. Ils ont mis pied à terre et puis immédiatement ce véhicule a démarré en trombe et a foncé sur un de mes collègues qui à cette heure-là est entre la vie et la mort. Donc il y a roulé dessus carrément. Il présente un trauma crânien très important et son état est très inquiétant.
Le chauffard a pu être interpellé ?
Mais le véhicule est en fuite actuellement et c'est un véhicule qui est signalé volé. Et là, aujourd'hui, c'est la colère qui nous habite parce que le sentiment d'impunité est là dans l'esprit des délinquants et qu'ils n'hésitent plus à foncer. Et c'est la violence quotidienne que mes collègues subissent.
Et d'après les informations de RTL, le chauffeur est activement recherché. Il serait identifié. Une nouvelle affaire qui ajoute au ras-le-bol de la profession. Après les attaques d'Herblay et de Champigny-sur-Marne, les syndicats seront reçus demain par Emmanuel Macron.
RTL 8h10 en football. Pas de cas positif chez les Bleus.
Petit coup de chaud hier lorsque l'on a appris que le Portugais Cristiano Ronaldo avait été testé positif au coronavirus après avoir joué contre les Français dimanche à Paris. Mais pour l'instant, les tests réalisés dans la délégation sont négatifs. Les Bleus sont à Zagreb aujourd'hui pour affronter la Croatie dans un stade qui peut accueillir 7000 supporters, 7 fois plus que dimanche au Stade de France. Et ça va faire du bien aux joueurs, d'après notre consultant Robert Pires.
Bien sûr que ça change tout. Ça va apporter du stimulant, ça va apporter de l'adrénaline. De revoir les supporters, oui, encore une fois, ça va faire du bien. On a un statut, c'est celui d'être champion du monde. Donc c'est ça qui est dur quand on a ce titre sur les épaules, c'est d'enchaîner des victoires. Ça ne s'est pas produit face au Portugal, mais dans le contenu défensif, je trouve que l'équipe de France a été forte, elle a été solide. Maintenant, il faut trouver le relais pour que les attaquants puissent s'exprimer. Antoine Griezmann, on sait qu'il est dans une situation un peu compliquée avec Barcelone. En équipe de France, ça va aussi un petit peu moins bien, mais ce qui est important pour lui, c'est d'avoir le soutien déjà de ses coéquipiers et surtout, le plus important, celui de Didier Deschamps. Aujourd'hui, je crois qu'il compte pratiquement 80 sélections. Il a été souvent décisif. Il faut que Didier insiste sur des choix de joueurs déjà, sur la façon comment elle va évoluer cette équipe de France. Didier doit faire des expériences parce que c'est le moment. Puis après, il prendra la décision finale.
Les conseils de Robert Pires, consultant RTL et M6 avec Philippe Sanfourche.
Croatie-France, coup d'envoi à 20h45. Match à suivre sur RTL à partir de 21h, juste après l'émission consacrée aux annonces d'Emmanuel Macron avec Vincent Parisot. L'histoire du jour.
À mourir de rire, un couple de septuagénaires du Jura qui avait été très prévoyant, trop peut-être, a mis en vente sa pierre tombale sur le Bon Coin en raison d'un déménagement en Normandie. Oui. À 1 200 €, la pierre a trouvé preneur et le couple a pu racheter une concession face à la mer. Cette fois, ce devrait être la bonne.
Bah écoutez, c'était le journal de...